Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence de Jury Travail, qui est aujourd'hui un peu plus particulièrement à destination des chefs d'entreprise, des directeurs administratifs et financiers. Aujourd'hui, en effet, nous allons aborder un sujet essentiel pour bon nombre d'entreprises, puisque nous allons parler des CGU, donc les conditions générales d'utilisation, des CGV, donc les conditions générales de vente, et des mentions légales. Tous ces textes que les clients lisent assez rarement, somme toute, mais dont il faut pourtant soigner particulièrement la rédaction afin de se conformer à la législation tout d'abord et de sécuriser également l'activité de vos entreprises. Donc, avant d'entamer cette webconférence, quelques mots pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Jury Travail. Donc, Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire rédigée dans un langage qu'on a voulu très clair. Cette base documentaire est composée de nombreux dossiers, mais également de modèles de lettres ou de contrats. Et cet abonnement vous donne enfin accès à toute notre équipe de juristes qui est basée à La Rochelle et qui répondent à vos questions par téléphone. D'ailleurs, au cours de cette webconférence, enfin, à la fin de cette webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester gratuitement cet abonnement et qui vous permettra de poser votre première question gratuitement à nos juristes. Jury Travail, donc, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Belliga, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis également ravi de pouvoir participer à cet événement.
Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence, afin de vous permettre de poser toutes vos questions sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre donc au cours de cette webconférence qui devrait durer 45 minutes. Donc, on essaiera de se tenir à cette durée. Et comme d'habitude, et pour devancer certaines de vos questions, vous recevrez à l'issue de cette webconférence la vidéo de celle-ci pour pouvoir la revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser de préférence dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Ma collègue Marine, que je remercie beaucoup d'être présente, se chargera de vous répondre en vous orientant vers certains contenus de notre site. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, donc n'hésitez pas à contacter Maître Belliga, dont vous voyez actuellement les coordonnées à l'écran. Je vous les redonnerai également à la fin de cette webconférence. Donc, toutes les questions que vous nous avez envoyées ont été regroupées en trois thématiques. Nous verrons donc tout d'abord les obligations légales concernant les CGU, les CGV et les mentions légales. Ensuite, nous aborderons le contenu proprement dit de ces documents en voyant les clauses qui sont obligatoires et celles qui sont interdites. Et enfin, nous verrons les sanctions en cas de non-respect des obligations légales concernant ces trois documents. Donc, commençons donc par les obligations légales. Concernant les CGU, pouvez-vous nous dire, Maître, si elles sont obligatoires? En quoi est-ce utile d'en rédiger et ont-elles une valeur contractuelle?
Donc, pour commencer, il faut savoir que les CGU ne sont pas obligatoires. En effet, contrairement aux conditions générales de vente qui sont obligatoires dans certains cas, notamment lorsque le site propose des produits ou des services dans le cadre d'une relation B2C, c'est-à-dire professionnel et consommateur. En revanche, les CGU ne sont pas, donc elles ne sont pas du tout obligatoires. Il reste toutefois que les CGU sont très utiles dans la pratique. Elles constituent une source d'information sur le contenu et les fonctionnalités d'un site web, sur ce qui est autorisé et sur ce qui ne l'est pas, ou encore sur les sanctions appliquées en cas de non-respect des règles. Ils peuvent prévoir des clauses concernant, par exemple, la responsabilité de l'éditeur du site web vis-à-vis des utilisateurs. Ils peuvent rassembler les mentions obligatoires d'un site Internet, comme les mentions légales, les conditions générales de vente, les cookies, ou encore les politiques relatives aux données. Enfin, pour terminer, sur le dernier volet de votre question, les CGU ont une valeur contractuelle parce qu'elles font office de contrat entre le propriétaire du site et les utilisateurs qui sont les internautes.
Très bien, donc il est vraiment utile d'en rédiger pour fixer les règles et fixer les différents rôles. Alors, abordons maintenant les CGV, donc les conditions générales de vente. Donc, même question, sont-elles obligatoires? Vous avez déjà partiellement répondu. Et à partir du moment où l'on vend des produits ou des services, est-ce qu'elles doivent être identiques ou doit-on adapter le contenu?
Donc, en effet, j'avais déjà partiellement apporté une réponse à cette seconde question. Donc, selon que le client, concernant les CGV, selon que le client est un consommateur ou un professionnel, il n'est pas obligatoire de lui communiquer des CGV. En effet, lorsque le client est un consommateur, les conditions générales de vente sont toujours obligatoires, donc il faut lui communiquer. À l'inverse, pour le professionnel, elles sont uniquement obligatoires lorsqu'il en fait la demande, donc, c'est-à-dire lorsque le professionnel fait la demande et exige que vous lui transmettiez des conditions générales de vente. Néanmoins, dans tous les cas, il est toujours nécessaire d'établir des conditions générales de vente, car elles visent à encadrer les relations contractuelles entre un professionnel et ses clients. En effet, les conditions générales de vente informent le client consommateur ou même professionnel sur les conditions de vente ou de service avant toute transaction. Elles constituent de ce fait un socle de négociation pour les parties qui peuvent ainsi adapter les différentes clauses aux particuliers et aux particularités de leur situation.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour un site d'e-commerce, donc vous avez précisé donc que les CGU étaient fortement recommandés, que les CGV, à partir du moment où on s'adressait à des particuliers, étaient obligatoires. Doit-on les rédiger ces deux documents de manière distincte ou peuvent-elles constituer un seul et même document?
En règle générale, pour un site d'e-commerce, bien qu'il ne soit pas obligatoire de rédiger des CGU à part et distincte des CGV, il est plus lisible de rédiger des CGU distincts des CGV. C'est ce qu'on retrouve en général dans la majorité des sites Internet qui mettent à la disposition des clients à la fois des CGV et des CGU distincts pour éviter de les confondre.
Très bien, merci beaucoup. Alors, parlons maintenant des mentions légales. À quelles entreprises s'applique l'obligation de les publier et où doit-on les publier? C'est pareil. Peuvent-elles être insérées au CGU et CGV? Doivent-elles être forcément distinctes?
Donc, une rigueur doit également être adoptée s'agissant des mentions légales qui s'appliquent à toutes les entreprises faisant usage d'un site Internet, donc, que ce soit une société ou une entreprise au sens large et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une association, une plateforme d'e-commerce par exemple, voire également un simple forum de discussion ou d'un blog personnel. Il faut en effet faire mentionner les mentions légales au sein du site. Aussi, il importe que ces informations soient faciles d'accès, c'est-à-dire qu'il est recommandé de les faire figurer sur la page d'accueil du site Internet pour qu'elles soient plus facilement visibles des internautes.
Oui, on les trouve également assez fréquemment présentes dans les liens des footers, donc les parties basses de toutes les pages du site, ou la barre de navigation principale. L'essentiel étant qu'effectivement les internautes puissent y accéder très facilement et qu'elles ne soient pas cachées au fin fond du site. Alors, concernant le contenu de ces documents maintenant, quel est le contenu type des conditions générales d'utilisation et quels conseils pratiques concernant leur rédaction pourriez-vous donner à nos internautes? Existe-t-il des clauses interdites dans ces CGU?
Donc, s'agissant du contenu type des conditions générales d'utilisation, elles contiennent en général des clauses relatives à l'objet, aux mentions légales, à l'accès du site, à la collecte des données, à la propriété intellectuelle, à la responsabilité, aux liens hypertextes, aux cookies, à la durée du contrat, à la publication par l'utilisateur, aux droits applicables et à la juridiction compétente en cas de litige. S'agissant des CGU, dans ce même cadre, il n'y a pas à proprement parler de clauses interdites. Toutefois, il convient d'éviter d'inclure des clauses abusives qui pourraient être sanctionnées au titre d'un déséquilibre significatif. De plus, il convient de ne pas confondre au sein de la rédaction des CGU le contenu des CGU et le contenu des CGV. Il convient également d'éviter de plagier les CGU d'un autre site Internet, de mettre des CGU en évidence pour qu'elles soient plus facilement accessibles aux navigateurs et enfin de faire accepter les CGU par les internautes à chaque fois.
Très bien, oui, et on reparlera de l'acceptation un petit peu plus tard. Alors, concernant les CGV, que doivent-elles contenir? On a bien compris qu'il y avait une distinction à faire entre les particuliers et les professionnels. Leur contenu est-il différent? Est-ce que le contenu est identique si l'on vend des biens ou si l'on vend des services? Et dans le même ordre d'idée, une question qui nous a été envoyée par l'un de nos internautes également. Il travaille dans une société qui vend à la fois des biens, mais également des formations, donc des services. Cette entreprise doit-elle rédiger deux conditions générales de vente distinctes?
Donc, dans la première situation, lorsque le client est un particulier, les conditions générales de vente doivent permettre de remplir l'obligation incombant au vendeur d'informer le client de ses propres obligations, c'est-à-dire des obligations du vendeur, relativement au paiement du prix, aux modalités de versement de la somme due, aux délais de paiement ou aux procédures de recouvrement. Ça permet également de l'informer de ses droits, c'est-à-dire des droits du consommateur, relativement au délai de rétractation, au retour ou au remboursement. Elles permettent également d'informer le consommateur des obligations du vendeur en ce qui concerne la livraison, l'obligation de délivrer une chose en bon état, d'utilisation ou encore le respect des délais particuliers que l'on peut retrouver s'agissant de la vente de certains biens. À l'inverse, lorsque le client est un professionnel, les conditions générales de vente servent à l'informer en application de l'article L441-1 du Code de commerce sur les conditions de règlement ainsi que les éléments de détermination du prix, tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. De sorte que, lorsqu'une société vend des biens et des services, il est nécessaire de rédiger des conditions générales de vente différentes selon les activités concernées, car dans ce type de situation, les biens ou les services fournis ne sont pas identiques, donc impliquent d'avoir des conditions générales de vente différents, ne serait-ce que, par exemple, je donne un exemple simple, en matière de livraison de produits ou des services, on a des conditions différentes.
D'accord, très bien. Et alors, par rapport aux droits de rétractation, pardon, dont vous avez parlé et qui doivent figurer dans ces conditions générales de vente, la loi Hamon a imposé le fait que le vendeur doit fournir également un formulaire de rétractation. Autant mettre le lien directement dans les CGV. Et il y a une petite nouveauté concernant ce formulaire de rétractation qui va intervenir assez rapidement puisque ça rentre en application le 28 mai, donc dans 4 jours. Ce formulaire de rétractation devra mentionner désormais l'adresse mail de contact du vendeur. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra modifier si tel n'est pas le cas actuellement sur vos formulaires. Alors, concernant toujours les clauses contenues dans les CGV, quel type de clause pourrait-elle être considérée comme abusive ?
Les clauses qui pourraient être considérées comme abusives au sein des conditions générales de vente sont listées principalement par l'article R212-1 du Code de la consommation qui interdit les clauses noires, c'est-à-dire les clauses qui sont irréfragablement présumées abusives. Il s'agit notamment de l'adhésion d'imposer à un client l'adhésion à des stipulations contractuelles qui ne sont pas mentionnées dans le document et qui n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à la conclusion du contrat. Il s'agit ensuite des clauses relatives à la restriction des obligations du vendeur, de l'autorisation du vendeur de modifier unilatéralement la durée du contrat les caractéristiques du produit ainsi que le prix. Le droit exclusif du vendeur de déterminer si le bien est livré ou le service exécuté conformément aux stipulations du contrat. La contrainte du client à exécuter ses obligations sans que le vendeur n'exécute les siennes. La suppression ou la réduction du droit à réparation du client en cas de manquement du vendeur aux obligations qui lui incombent. L'interdiction du client de demander la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le vendeur de ses obligations. L'attribution au vendeur d'un droit unilatéral de résilier discrétionnairement le contrat. Le droit de rétention des sommes versées pour les prestations non encore réalisées en cas de résiliation du contrat. De même, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'application d'un délai de préavis plus long en cas de résiliation. Par ailleurs, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'obligation du consommateur de verser une indemnité en cas de résiliation est également interdite. Enfin, pour finir, le transfert de la charge de la preuve du vendeur vers le client est également prescrit par les dispositions du Code de la consommation.
Très bien, c'est toujours au vendeur donc de prouver qu'il a bel et bien livré son produit ou accompli le service qu'il vendait.
Effectivement.
Alors, une question un petit peu particulière qui nous a été envoyée, qui est très proche de notre thème et en même temps un peu éloignée, puisqu'on va parler de conditions générales d'achat, puisque parmi les entreprises, il y a des acheteurs qui achètent de nombreux biens à de nombreux vendeurs. Donc, eux aussi ont intérêt à encadrer ces transactions en rédigeant des conditions générales d'achat. Et donc, une question qui nous a été envoyée, donc un acheteur professionnel fait signer des conditions générales d'achat à tous ses vendeurs au moment de passer sa commande. Et dans ces conditions générales d'achat, il a fait figurer une clause stipulant la primauté de ces conditions générales d'achat sur les conditions générales de tous ces vendeurs. Et les vendeurs, eux, envoient malgré tout une demande de confirmation de commande, demande de confirmation de commande qui doit comporter une confirmation, enfin une acceptation des considérations générales de vente du vendeur cette fois-ci. Alors, ce type de clause stipulant donc la primauté des CGA sur les CGV est-elle légale? Et les CGV du vendeur peuvent-elles malgré tout s'appliquer?
Effectivement, ce type de clause est très fréquent dans certains types de transactions et elles sont en effet légales. Il est un principe en droit qui veut que le particulier prévaut sur le général. Donc, dans certains cas, il est laissé une marge de liberté aux parties pour négocier les conditions dans lesquelles leur accord va se dérouler. C'est ce qu'on peut rencontrer à travers les conditions générales d'achat qui vont fixer un cadre particulier entre le vendeur et l'acheteur. De sorte que les contrats dans ce type d'accord, les contrats spécifiques à la relation commerciale, comme ce le sont les conditions générales d'achat, existent entre les parties et écartent de ce point de vue l'application des conditions générales. Donc, dans ce type de cas, va prévaloir les conditions générales d'achat en lieu et place des conditions générales de vente. Donc, en effet, dans ce type de d'accord est parfaitement valable et applicable.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, une petite question qui nous a été envoyée par Annick sur le formulaire de rétractation. Est-il obligatoire dans le cas de vente de services, par exemple une vente de formation, ou est-ce réservé exclusivement à des ventes de biens physiques?
Vous pouvez réitérer la question, excusez-moi.
Sur le formulaire de rétractation, est-il obligatoire, oui, quel que soit ce que l'on vend? Est-ce que c'est valable pour des services comme des formations, par exemple? Ou est-ce réservé à des biens physiques?
C'est applicable à l'ensemble des services commerciaux qui sont fournis, que ce soit des ventes directes ou des services. Il est obligatoire de fournir un formulaire de rétractation dans tous les cas.
Alors,
d'autant plus lorsqu'on a en face un consommateur.
Oui.
Personne physique.
Merci beaucoup. Alors, une autre question qui nous a été envoyée, c'était sur la terminologie contrat à durée déterminée.
Oui.
Pour Christian, en fait, il imagine la terminologie contrat à durée indéterminée uniquement dans le contexte droit du travail, manifestement, et dans le cadre du contrat de travail. Est-ce qu'un contrat commercial peut tout à fait avoir une durée indéterminée?
Bien sûr, oui.
Voilà, donc cette terminologie n'est pas réservée exclusivement au droit du travail, mais s'applique bien aux contrats commerciaux. Et il est important de le mentionner effectivement dans les CGV, la durée du contrat, l'éventuelle tacite reconduction ou la durée indéterminée du contrat. On en a déjà parlé un petit peu précédemment. Doit-on s'assurer de l'acceptation des CGU et des CGV par l'acheteur? Et chose qu'on trouve encore sur plusieurs sites Internet en France, peut-on précocher la case d'acceptation, par exemple, pour faciliter le parcours d'achat?
Pour commencer, il est nécessaire de s'assurer que le client a parfaitement, à titre personnel, pris connaissance des conditions générales de vente et des conditions générales d'utilisation. Ce qui signifie, à contrario, qu'il ne faut pas précocher la case d'acceptation, par exemple, pour le permettre d'aller plus vite dans sa transaction. Donc, il faut le laisser pouvoir cocher lui-même les cases et s'assurer qu'il a parfaitement pris connaissance de la teneur des obligations et des droits qui lui étaient conférés à travers les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation qui lui sont soumises.
Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons maintenant le contenu des mentions légales. Ce contenu est-il identique pour toutes les activités et pour tous les statuts juridiques ou varie-t-il en fonction de ces deux critères?
Le contenu des mentions légales varie en effet selon que le site a une visée plutôt commerciale, plutôt professionnelle, s'agissant par exemple d'une société exerçant une activité non commerciale. Donc on va avoir dans ce cas-là un contenu différent, ou encore que selon que l'éditeur du site est une personne physique ou personne morale, on va avoir également un contenu différent. En résumé, le contenu diffère en fonction de l'activité et du statut juridique de l'éditeur du site. Donc, le contenu varie en fonction des cas, pour évoquer simplement ce point-là. Ainsi, leur rédaction ne doit pas être effectuée à la légère et une rigueur particulière doit être accordée à la rédaction des mentions légales.
Très bien. Alors maintenant, parlons un peu de la mise à jour de ces documents. Quand doit-on mettre à jour tous ces documents? Dans quelles circonstances?
On peut mettre à jour l'ensemble de ces documents dans diverses situations, notamment en cas d'évolution des conditions de vente sur un site internet ou en cas de modification des délais, par exemple de livraison. Il est nécessaire de l'indiquer au sein des conditions générales de vente lorsqu'on a affaire à une vente physique ou lorsqu'on procède à travers un site internet et que certaines conditions de vente des transactions intervenant sur le site internet sont modifiées, notamment en cas de changement dans le type de produit commercialisé, il est nécessaire de modifier les conditions générales d'utilisation. Cela vaut également pour les mentions légales en cas, par exemple, de changement de statut d'une société ou de transformation, il est nécessaire de mettre à jour les mentions légales aussi dans ce cas-là. Donc, vous avez, on a eu diverses situations qui peuvent conduire à modifier l'ensemble de ces informations qu'il est nécessaire à chaque fois de mettre à jour.
Et du coup, techniquement, ça implique également que vous loguiez à chaque fois, enfin, que vous nommiez les différentes versions de vos CGV, de vos CGU, que les clients ont accepté en allant sur votre site et que vous loguiez en base tel client, tel jour a accepté la version 1, la version 2 ou la version 3 de mes CGU ou de mes CGV. En cas de litige, comme vous le rappelait Maître Béliga tout à l'heure, la charge de la preuve est toujours du côté du vendeur. Donc, c'est à vous de prouver la version des documents qu'ont accepté les utilisateurs. Alors, une autre question qui nous a été envoyée, alors que je regarde, la mise en place d'une charte. Alors, c'est pas précisé de quel type de charte il s'agit. Nécessite-t-elle une mise à jour des CGV? Je pense que oui. Enfin, vous pouvez la mettre en avant au sein des CGV ou même plus précisément, s'il s'agit d'une charte au sein des CGU. Vous êtes d'accord avec ceci, maître?
Oui, en effet, il est possible de mettre à jour la charte au sein des conditions générales d'utilisation, si cette charte implique une modification de certaines fonctionnalités du site, il faut l'intégrer dans les conditions générales d'utilisation.
Très bien, merci, merci beaucoup. Alors, abordons maintenant le cruel sujet des sanctions, puisque quand il y a des obligations légales, il y a forcément le volet sanctions qui est prévu en parallèle. En cas d'utilisation de clauses abusives dans les CGV, déjà quel recours peuvent avoir les consommateurs et du coup, à quelles sanctions s'exposent les entreprises?
Donc, les consommateurs sont principalement protégés s'agissant des clauses réputées abusives intégrées dans les CGV au titre de la sanction du déséquilibre significatif qui est intégré dans les dispositions du Code de la consommation et les dispositions du Code civil, mais c'est les dispositions du Code de la consommation lorsque est en jeu un conflit entre un professionnel et un consommateur qui ont vocation à s'appliquer. Donc concrètement, lorsqu'une clause réputée abusive est intégrée dans les conditions en général de vente, elle est réputée non écrite, c'est-à-dire que la clause, les conditions générales de vente dans leur entièreté demeurent, seule est écartée la clause réputée abusive, c'est-à-dire qu'elle est réputée non écrite et elle n'aura pas vocation à s'appliquer.
D'accord, très bien. Et quelles sont les sanctions encourues si on nommait des clauses obligatoires au sein des CGV?
Les sanctions en cas d'omission d'une clause obligatoire ne sont pas identiques, donc, parce que l'importance de chacune des clauses est différente. Elle concerne notamment une différence s'instaure entre la vente ou les prestations de services à destination d'un professionnel ou d'un particulier. Pour citer un exemple, par exemple, si on a une omission d'une clause relative aux conditions de règlement dans une vente passée avec un professionnel, il y a une sanction qui s'applique et cette sanction se trouve à l'article L441-16 du Code de commerce, de sorte que le vendeur ou le prestataire de service encourt dans ce cas spécifique une amende administrative d'un montant maximum de 75 000 euros, qui est une somme très importante, pour une personne physique, et de 2 millions d'euros pour une personne morale, ce qui montre bien que les sanctions peuvent être très lourdes. Donc, selon le type de clause qui est omise, une sanction différente s'applique et les sanctions peuvent en effet être très lourdes selon le type de clause qui est en jeu ou qui a été omise par le professionnel.
Très bien. Alors, dans les clauses obligatoires, il y a l'usage qui est fait par le site des données personnelles collectées. Et si l'on oublie cette partie-là dans l'un des documents, que ce soit les CGU ou les CGV, ou les mentions légales d'ailleurs, quelles sont les sanctions encourues?
C'est principalement des poursuites judiciaires pour violation des données personnelles, conformément à ce qui est prévu en matière de respect du RGPD, qui est de rigueur. Dans ce cadre-là, on a notamment une institution qui est chargée de veiller au respect du RGPD. Et du respect des données personnelles. Donc, c'est la CNIL qui contrôle la conformité de l'ensemble des sites Internet au respect des règles du RGPD.
Oui, et
donc, les mentions légales du RGPD doivent clairement apparaître au sein des sites Internet et informer le client de ce qu'une collecte des données est réalisée.
Oui, tout à fait. Et la CNIL a annoncé dans son dernier rapport qui a été publié, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'ils allaient accorder une attention vraiment toute particulière sur ces points-là pour les sites Internet et les applications mobiles également. Ça va faire partie de leur priorité de 2022. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant sur ce point, d'autant que les sanctions financières peuvent aller très loin. Si mes souvenirs sont bons, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe. Ça peut recouvrir des montants vraiment très importants. Alors, il y a une petite question qui demande, c'est Sidi qui vous demande des petites précisions. Pour expliciter un petit peu plus les différences entre les CGV et les CGU.
Expliciter la différence.
Oui.
D'accord, c'est que les conditions générales d'utilisation ne concernent que les modalités d'accès d'un site Internet au profit d'un consommateur. Par exemple, si vous voulez aller sur un site Internet, vous allez avoir accès aux conditions générales d'utilisation. Donc, ces conditions générales d'utilisation ne visent qu'encadrer la relation et les modalités de navigation sur le site Internet. Les conditions générales de vente, elles, sont beaucoup plus circonstanciées, c'est-à-dire qu'elles concernent et encadrent uniquement la relation de vente ou la relation commerciale qu'il y aura entre le vendeur et une personne physique. Donc, on a dans un premier temps, pour les conditions générales d'utilisation, un rapport uniquement lié à un site Internet, alors que les conditions générales de vente, elles, encadrent uniquement le rapport commercial, industriel ou libéral qui s'instaure entre le consommateur et le professionnel, ou le professionnel et un autre professionnel.
Oui, c'est vraiment deux documents bien, bien distincts. Par exemple, dans les CGU, on peut demander à l'utilisateur de ne pas plagier le site, puisqu'il y a tout le volet sur la propriété intellectuelle. Les CGV, comme leur nom l'indique, ça fixe vraiment la transaction financière de la vente, et c'est régi essentiellement par le droit de la consommation, c'est bien ça?
C'est ça, le droit de la consommation, lorsque est en jeu un particulier à l'égard d'un professionnel, et le droit commercial, le code de commerce, lorsque sont en relation deux professionnels. Donc là, c'est le code de la consommation qui s'applique.
Très bien. Alors, une question de Laurine. Si un site vend deux types de produits, un produit fait main et des produits achetés chez un fournisseur externe, doit-il y avoir deux CGV différentes?
Il est possible. Après, si toutes les conditions, par exemple, je vous donne un exemple, en cas, si les modalités de livraison, de rétractation sont identiques, on peut prévoir dans ce cas-là des conditions générales de vente identiques. Toutefois, si les modalités à la fois de présentation des caractéristiques du bien, de livraison, de prix ou encore de transfert de propriété, ou dernier exemple, s'agissant des garanties légales de vice caché ou de conformité sont distinctes selon que vous vendez ces deux types de produits, alors il convient dans ce cas-là de faire des conditions générales d'utilisation, de vente, pardon, distinctes. Toutefois, si c'est l'ensemble de ces caractères des deux produits sont identiques, vous pouvez tout à fait prévoir un seul et même contrat relatif aux conditions générales de vente.
Alors, là, les questions fusent en ce moment. Une question, mais je crois que vous l'aviez déjà abordée au début de la conférence. Sur un simple blog, doit-il y avoir des CGU?
Oui, également. C'est applicable sur l'ensemble des supports utilisant un site Internet.
Alors, on rappelle que les CGU ne sont pas obligatoires, mais c'est recommandé, oui, obligatoires, pour éviter le plagiat.
Elles peuvent également figurer sur.
Donc, quel que soit le site Internet, vous êtes en droit de mettre des CGU. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, après, libre à vous de le faire ou pas. Une question de Marianne. Les CGU-CGV sont-elles obligatoires pour une plateforme de mise en relation entre différents loueurs et un particulier?
Oui, on peut. C'est obligatoire, oui, en plus un particulier, donc c'est à destination d'un consommateur personne physique. Donc dans ce cas-là, comme on l'a dit précédemment, les conditions générales d'utilisation du site Internet ne sont pas obligatoires, mais vous pouvez quand même les prévoir sur le site Internet. Par contre, il est obligatoire de prévoir des conditions générales de vente qui doivent obligatoirement être transmises au consommateur, qui est en l'occurrence le client.
Alors après, de ce que je comprends, en relisant la question de Marianne, la seule interrogation concernant les CGV, c'est est-ce que vous faites payer la mise en relation entre les loueurs et les particuliers. Donc, si c'est payant, si la mise en relation est payante, oui, il y aura des CGV. En revanche, les CGU, les CGU sont quand même vivement recommandés dans ce genre de circonstances, puisque vous pouvez intervenir comme un tiers au niveau de la mise en relation, et ça peut vous mettre en danger si le contact entre les loueurs et le particulier ne se passe pas très bien au final. Alors, on va prendre une dernière question. Il y en a deux autres qu'on va prendre rapidement. Alors, une vraiment très rapide. Les CGU peuvent-elles être intitulées chartes d'utilisation du site ? On n'a aucune obligation de les nommer conditions générales d'utilisation ?
Tant qu'elles respectent les prescriptions relative aux conditions générales de vente, oui, on peut les dénommer charte du site, en effet.
Parfait. Et alors, une autre question sur le formulaire de rétractation. Est-il obligatoire pour la vente de produits alimentaires ? Si oui, y a-t-il une différence entre les produits alimentaires secs et frais ? Il est obligatoire dès qu'on vend quelque chose, le formulaire de rétractation. C'est ce que nous disions tout à l'heure, maître.
Oui. Dès l'instant où on commercialise quelque chose ou qu'on exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il est nécessaire de prévoir, lorsque cette activité ou cette vente est à destination d'un particulier ou d'un professionnel, il est nécessaire et obligatoire de prévoir des conditions générales de vente qui doivent être adressées à ce client.
Et quant à savoir s'il doit y avoir une différence entre les produits, en fonction des produits vendus, j'ai envie de dire, c'est un peu libre à vous. Si votre process de rétractation et de retour de produits est différent, oui, il faudra un formulaire de rétractation pour chaque cas. Si le process de restitution du produit est identique, il n'est pas nécessaire d'avoir deux formulaires différents. Vous êtes d'accord avec cela ? Très bien. Alors, du coup, une dernière question, un petit peu en guise de conclusion de cette webconférence. Si vous aviez 5 ou 6 conseils essentiels à donner à nos internautes au sujet de la rédaction de ces 3 documents, donc les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente et les mentions légales, quels seraient-ils ?
Le premier conseil que je pourrais donner, c'est que ces clauses ou ces documents doivent être apparents, notamment lorsqu'ils sont présents dans un site internet. Donc, on l'a dit pour les conditions générales d'utilisation qui doivent apparaître en page d'accueil. Il faut que ces documents soient apparents, c'est là le premier conseil. Le second conseil est que ces documents doivent être clairs, c'est-à-dire qu'il faut éclairer le consommateur ou même le professionnel sur la teneur de son engagement, de ses obligations et les obligations qui sont à la charge du professionnel également, du professionnel vendeur. Ce second conseil est intimement lié au troisième conseil qui est relatif au contenu de ces documents qui doit être très très détaillé aux fins de permettre aux consommateurs mais aussi aux professionnels de prendre pleinement connaissance de son engagement. Un autre conseil un peu plus pratique, c'est d'éviter de recopier des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente présents sur certains sites internet sans les adapter à votre activité. Donc, il est important toujours d'adapter les documents que vous trouvez à l'activité spécifique que vous exercez. C'est le quatrième conseil. Enfin, il convient à chaque fois, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous exercez plusieurs activités avec des process distincts, il faut prévoir dans tous les cas des conditions générales de vente, voire des conditions générales d'utilisation distinctes dans les deux cas. Si à l'inverse, vos activités sont identiques et que les produits ou les services proposés sont identiques et obéissent à un même process, vous pouvez dans ce cas-là prévoir des conditions générales de vente identiques. Ce sont les 5 principaux conseils brièvement évoquées que je peux donner, que je peux vous donner.
Merci beaucoup, maître. Donc, nous arrivons au terme de notre webconférence. Donc, j'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à bon nombre de vos questions. Et je vous invite vivement à lire également tous les dossiers que Marine vous a postés au cours de celle-ci dans le chat pour avoir accès à éventuellement des informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas à contacter Maître Belliga, dont je remets donc les coordonnées à l'écran pour tout conseil juridique. Alors, petite question de ma part. Chez Jury Travail, donc nous attachons beaucoup d'importance à ces webconférences et surtout à vous satisfaire quant à leur contenu. Donc, ma collègue Marine va vous transmettre un lien qui va vous permettre de donner votre avis sur cette webconférence et ça pourra nous aider à faire évoluer éventuellement ce format à l'avenir. Alors, si vous avez encore des questions ou si dans les jours à venir, d'autres questions vous viennent à l'esprit, je vous rappelle que vous pouvez poser votre première question gratuitement à nos juristes. Marine vient actuellement de vous transmettre le lien qui vous permettra de le faire. Et enfin, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu le 7 juin, donc à 14h comme aujourd'hui. Elle aura lieu 2 jours après la Journée mondiale de l'environnement et c'est pourquoi nous avons souhaité aborder donc le sujet de la RSE et plus particulièrement donc le pilier environnemental de celle-ci en vous donnant donc des pistes sur les éléments à mettre en place à ce sujet. Donc, cette webconférence s'adressera plus particulièrement aux chefs d'entreprise, aux RH, aux chargés RSE, mais également aux élus de CSE et délégués syndicaux, puisqu'il y a des négociations sur les sujets environnementaux également à mener dans le dialogue social. Et au cours de cette webconférence, nous aurons le plaisir de retrouver Maître Vallier, avocat au barreau de Nice, qui était précédemment venu nous parler de la loi climat et résilience. Donc Marine vient de vous transmettre le lien d'inscription par chat. Venez nombreux et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous transmettre vos questions. Donc merci beaucoup, Maître Belliga. Merci encore d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Je vous remercie également en vous souhaitant une bonne journée.
Voilà, bonne journée à vous également. Et merci à vous tous d'être venus encore aussi nombreux à cette webconférence. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne journée.
Au revoir.